Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du live de Radio Bossier. Aujourd'hui, nous vous retrouvons avec toute l'équipe pour parler art, culture, actualité ou encore développement durable. Nous souhaitons une bonne écoute à tous nos auditeurs et si vous êtes nouveau ici, nous vous laissons découvrir ce format. Pour commencer, dans notre rubrique « L'invité du live », on continue dans les pratiques artistiques au lycée avec Mélina, qui accueille à son micro Madame Moreno, professeure de PS qui coordonne l'obsolescence. Puis, dans notre micro-trottoir, nos reporters Léna, Mélène et Nisrine sont partis recueillir les témoignages des élèves de la spécialité art plastique qui ont participé à un atelier avec la photographe Jade Meilly. Pour continuer dans la rubrique « On se décarbone », aujourd'hui, Léna et Mélène nous proposent un zoom sur la question des déchets plastiques, un véritable fléau qui pollue notre planète, et elles nous présenteront les actions menées à l'échelle du lycée pour lutter contre ce type de pollution. Du côté géopolitique, Manon nous parlera de l'effondrement du régime de Bachar al-Assad en Syrie et des conséquences de cet événement aux échelles régionales et internationales. Enfin, pour terminer l'émission, nous poursuivrons avec notre petit journal de la culture. Côté cinéma, Lola nous parlera du film The Substance, primé à Cannes. Pour la littérature, Erin nous parlera de l'incroyable roman La sage-femme d'Auschwitz. Et concernant les arts plastiques, Lilou nous parlera de la fondation Carmignac sur la magnifique île de Porquerolles. Sans plus tarder, laissons la parole à Mélina et son invitée Madame Moreno pour nous parler de l'obsolescence et de sa pratique au lycée.
Pour le premier live de l'année 2025, j'ai le plaisir d'interviewer Madame Moreno, professeure de sport dans notre lycée. Nous allons aujourd'hui explorer l'obsolescence du lycée et tout ce qu'elle propose. Bonjour Madame Moreno.
Bonjour Mélina.
Tout d'abord, en quoi consiste l'obsolescence, souvent méconnue de tous ?
L'obsolescence est un enseignement optionnel artistique sur la base du volontariat, d'où le titre, le nom optionnel. Et donc, c'est un enseignement qui se dispense à raison de 3 heures par semaine, 2 heures le mardi, 1 heure le vendredi, où les rôles de chorégraphe, spectateur et danseur-interprète sont développés essentiellement. C'est ouvert à tous les élèves qui pratiquent la danse en club ou pas. Le rôle de chorégraphe est vraiment mis en avant. Ce sont les élèves qui décident du titre de leur chorégraphie, du choix de la musique, des costumes et du thème, évidemment. Et également, nous fréquentons le Théâtre Liberté et Château Vallon pour développer le rôle de spectateur. Et c'est un enseignement qui vise à l'ouverture sur les arts vivants, le spectacle vivant et à développer la culture artistique.
D'accord. Et combien d'élèves suivent actuellement cette option ?
Alors, en seconde, il y en a 17, et dans le groupe de première terminale qui sont réunis, elles sont 14.
Ok. Comment décidez-vous du ou des thèmes de vos spectacles ?
Alors, ce sont les élèves qui décident des thèmes de leur chorégraphie. Justement, il y a un championnat, dans le cadre de l'association sportive, il y a un championnat qui est prévu, championnat départemental, le mercredi 12 mars. Nous engageons 2 équipes, l'équipe du niveau seconde, l'équipe du niveau première, dans la catégorie excellence, c'est-à-dire qu'au niveau du championnat UNSS, c'est la catégorie la meilleure, puisqu'elles suivent un enseignement optionnel artistique, danse. Tout le groupe décide du titre, du thème, de la musique. Chaque élève vient avec son style de danse, on n'impose pas un style, et c'est vraiment un collectif de chorégraphes, tout le monde vient avec sa motricité et participe à l'élaboration des chorégraphies.
D'accord, c'est bon à savoir. Et pouvez-vous nous donner quelques indices du coup au sujet du prochain spectacle ?
Alors, pour la prochaine compétition donc qui a lieu, la première échéance est donc mercredi 12 mars au théâtre Lino Ventura à Puget-sur-Argens. Et je peux vous dire par exemple que pour le titre de l'équipe du niveau seconde, leur titre est Identité cachée. Voilà, j'en dirai pas plus.
D'accord, merci pour cette information. Et est-ce que certains de vos élèves sont devenus danseurs professionnels ?
Oui, tout à fait. Nous avons des élèves, par exemple, peut-être que les collègues vont s'en rappeler, Léna Ravel qui suivait un enseignement, qui avait choisi la spécialité maths et une spécialité AMC, anglais, a décidé de choisir de suivre une formation à Paris avec le Pôle supérieur national de danse de Boulogne-Billancourt. Et également, elle suit à côté de ça une licence art du spectacle avec la spécialité musique à Paris, Paris 8. Et il y a des élèves qui ont ouvert leur propre école de danse et qui ont suivi l'enseignement de spécialité à l'époque où il y avait la spécialité en danse. Il y a par exemple Carla Reyes qui a ouvert sa propre école de danse à Ouloul et Mélissa Surmont qui a repris cette année l'école de danse de Candice Thomas à la Seyne-sur-Mer et qui a donc ouvert aussi son propre studio de danse.
D'accord. Eh bien, merci pour votre intervention et merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi, Mélina.
Merci Mélina pour cette interview, c'était très intéressant. Et merci à Madame Moreno pour sa participation et son implication dans cette option. Passons maintenant à notre micro-trottoir en compagnie de Léna, Mélène et Nisrine avec les élèves d'art plastique qui nous plongent dans l'univers de la photographie après leur rencontre avec Jeanne Meilly. Ils nous expliquent ce que cette rencontre a pu leur apporter dans leur démarche d'apprentissage. On vous écoute.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Athéna et Laura en terminale SP Art. Suite à l'intervention de la photographe dans leur cours, nous avons décidé de les interviewer.
Bonjour, on est avec Jeanne Meilly qui est venue en cours d'art plastique dans le cadre d'une activité de photographie cyanotype. Donc est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer le cadre de ce projet ?
Du coup, je suis là en tant qu'artiste intervenante avec le Pass Culture. En fait, c'est un dispositif qui existe depuis 3 ans et même plus longtemps avec l'éducation artistique et culturelle qui permet à des enseignants dans les établissements d'inviter des artistes à venir en classe proposer une activité artistique au sein des collèges et lycées. Et en fait, avec votre enseignante Frédéric Germani, on a imaginé sur 3 séances des ateliers liés à la photographie, donc sur la question de documenter, augmenter le réel, qui est une thématique de la terminale, mais qu'on a aussi appliqué pour les élèves de seconde et de première. Et en fait, dans le cadre de ces ateliers-là, il y avait aussi l'expérimentation d'un ancien procédé, donc le cyanotype, qui est un procédé du 19e siècle et qui permettait de voir un autre rapport à l'image. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez intégrer la question de la photographie et l'image de façon très large au sein de votre projet personnel de terminale.
Je suis maintenant avec Athéna qui va nous expliquer en quoi la venue et l'atelier avec la photographe a enrichi son projet personnel.
Alors pour mon projet, la photographe m'a aidée à trouver un autre moyen d'approcher mon thème qui est les souvenirs, la mémoire, les émotions. Et j'ai pu trouver beaucoup d'autres formes comme un court-métrage avec pas mal d'images et de montages, ce qui m'a fait prendre compte que mon projet était pas très concret et du coup voilà, ça m'a appris de nouvelles choses.
D'accord, merci beaucoup. Alors, je suis avec Elora, une élève de terminale, et elle va vous expliquer en quoi consistait la séance avec Jeanne Meilly.
Donc pour la séance avec Jeanne Meilly, on a expérimenté la cyanographie. Donc c'est un procédé photographique monochrome négatif ancien. Donc pour réaliser la cyanographie, on doit utiliser 2 produits chimiques, le citrate d'ammonium ferrique et le ferricyanure de potassium. Donc c'était très intéressant à expérimenter. Jeanne Meilly avait préparé les négatifs de photos qu'on lui avait envoyés préalablement. Et donc avec une lumière UV, on a pu faire transparaître notre photo. Donc c'était très intéressant et puis elle a pu apporter des conseils et des références par rapport à notre projet personnel. Donc elle a été d'une grande aide pour notre projet.
D'accord. Merci beaucoup Elora.
Un grand merci à notre équipe et aux élèves qui nous ont partagé leur expérience suite à cette belle rencontre. Laissons place à notre rubrique sur le développement durable. Nous écoutons Léna et Mélène qui nous parlent aujourd'hui dans Once Décarbone de la question des déchets plastiques qui polluent notre planète. C'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Once Décarbone. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital pour notre planète, les déchets plastiques et en particulier leur impact sur nos océans.
Chaque année, près de 430 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. C'est une quantité immense. Mais ce qu'il y a encore plus, c'est la quantité de plastique qui termine dans nos océans, entre 8 et 12 millions de tonnes par an, soit l'équivalent d'un camion poubelle de plastique déversé dans les mers chaque minute.
Une grande partie de ces déchets provient des activités humaines, par exemple les emballages jetés dans la nature ou les débris industriels. Une autre partie provient des activités en mer, comme la pêche ou le transport maritime. Mais ce n'est pas tout. Ces déchets se réunissent sous l'effet de grands courants marins et forment des véritables vortex de plastique. Le plus connu est le Great Pacific Garbage Patch, situé dans le Pacifique Nord, couvrant une surface d'environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit une superficie 3 fois plus grande que celle de la France.
Et si les déchets visibles sont inquiétants, les microplastiques le sont encore plus. Ces particules proviennent de la dégradation des déchets les plus grands comme les vêtements synthétiques. Et les conséquences sont dramatiques. Aujourd'hui, on en trouve dans les estomacs des poissons, des oiseaux et même des baleines. Ils sont un vrai danger pour la biodiversité marine, intoxiquent lentement les organismes, perturbant leur cycle de reproduction et menaçant la survie des espèces. Face à ce fléau, il est primordial de réduire notre consommation de plastique, recycler au maximum et surtout soutenir les initiatives locales et internationales pour nettoyer nos océans et limiter la production de déchets.
C'est pour cela que nous avons été à la rencontre de certains éco-délégués du lycée afin qu'ils nous partagent leur engagement écologique.
Bonjour Zoé, bonjour Valentin. Quelques semaines auparavant, une journée en l'honneur de la fête de la Méditerranée a été mise en place. Pourriez-vous nous en raconter le déroulement ?
On s'est rendu à une plage au niveau des Sablettes pour la nettoyer, pour dépolluer les mégots et les déchets plastiques. On a fait venir plusieurs collèges, dont Curie et l'Herminier, pour justement aussi dépolluer notre plage. De ça, on a pesé le nombre de déchets qu'on a récupérés, donc 50 kilos. Et ensuite, on est parti à la tour au Port-Levant pour faire une manifestation et mettre des drapeaux en évidence pour dire qu'il fallait aider la mer et la protéger.
D'après vous, quelle est l'importance de mettre en place ce genre de projet et quel est le rôle des éco-délégués dans ces événements ?
Pour moi, l'importance de ces projets, c'est surtout de sensibiliser, mais à toutes les échelles, parce qu'il y a eu des collégiens avec nous, mais aussi des lycéens. Il y a la presse aussi qui est venue, donc c'est vraiment sur beaucoup de générations. Et nous, en tant qu'éco-délégués, ben, ça nous permet aussi d'avoir des mouvements et de commencer très jeunes pour sensibiliser. Et du coup, bah, c'est vraiment dans la continuité, parce qu'on peut commencer dès la 6e jusqu'à la terminale.
Merci à tous pour ces informations précieuses qui, je l'espère, ont permis à nos auditeurs de prendre conscience du travail indispensable à mener sur la question de la gestion du plastique. Et merci aux éco-délégués pour leurs actions menées au sein du lycée. À présent, Manon nous propose un instant géopolitique pour nous éclairer quant à l'effondrement récent du régime de Bachar al-Assad en Syrie, ainsi que son impact sur la géopolitique régionale et internationale. C'est à toi Manon.
Bonjour, bienvenue dans Géopoliticus. Aujourd'hui, focus sur un événement historique qui redéfinit largement le paysage géopolitique du Moyen-Orient et les forces en présence, la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Le 8 décembre 2024, après une offensive éclair des forces rebelles du groupe islamiste syrien Hayat Tahrir al-Sham, ou HTC, Damas, la capitale syrienne, est tombée, mettant fin à plus de 5 décennies de domination de la famille Assad. Contraint de fuir, Bachar al-Assad a trouvé asile en Russie, chez Vladimir Poutine, qui l'a largement aidé pendant la guerre civile, à mater les forces rebelles. Bachar al-Assad a nié avoir abandonné son pays, affirmant que son départ était une évacuation forcée orchestrée par Moscou face à l'effondrement rapide de son armée.
Comment peut s'expliquer cet effondrement ?
Le succès de l'offensive éclair de HCT s'explique par le fait que l'armée syrienne a été totalement dépassée, se présentant comme une armée déprofessionnalisée, avec des soldats mal payés et lassés par la guerre civile. HTC a de plus bénéficié d'un appui turc en matière d'armement et bénéficié du contexte géopolitique où l'Iran, le Hezbollah et la Russie, des alliés du régime de Bachar al-Assad, sont soit affaiblis, soit préoccupés ailleurs. Cette chute a mis en lumière les horreurs perpétrées sous son régime, notamment dans les prisons comme celle de Saïd Naya, surnommée le Matadero Humano, pour les tortures et exécutions sommaires qui étaient pratiquées. Les organisations de défense des droits humains réclament désormais que les responsables rendent des comptes devant la justice internationale. Quelques semaines après ces événements, la Syrie amorce un retour progressif à une certaine normalité. Les institutions publiques rouvrent leurs portes sous l'autorité d'un gouvernement de transition. Cependant, les craintes demeurent parmi certaines communautés qui redoutent des représailles et une marginalisation dans un contexte où des groupes islamistes radicaux ont gagné en influence.
Mais quelle est l'idéologie de HTC ?
Abou Mohamed El-Joulani a fondé en 2017 HTC, dont le nom signifie « Organisation pour la libération du Levant ». Il avait dirigé une filiale d'Al-Qaïda en Syrie, mais a coupé les liens avec cette organisation. Les États-Unis ont classé HTC comme une organisation terroriste. Nous ne sommes pas ici dans le cadre d'un djihad, et HTC est une organisation syrienne dont l'agenda politique est proprement syrien, ce qui n'entre pour autant pas en contradiction avec le fait que son idéologie est radicalement islamiste. Expliquait le chercheur Didier Billion sur le site de l'IRIS, un centre de réflexion. El Julani peut prétendre à une transition démocratique, mais ce sera compliqué. Il sera sous la pression de franges plus dures, et le groupe n'a pas les compétences pour administrer un État, estime Myriam Benrad, un autre analyste. La communauté internationale appelle à une transition pacifique et à la mise en place d'un gouvernement inclusif, respectant les droits de tous les citoyens. L'avenir de la Syrie est incertain, mais une nouvelle page semble s'écrire après des décennies de souffrances et de conflits. C'était Géopoliticus, à bientôt.
Merci Manon pour ces explications très claires. Cet événement n'est pas à prendre à la légère et ses conséquences géopolitiques sont nombreuses. Pour les élèves de la spécialité AGGSP, prenez des notes. C'est maintenant le moment de notre pause culture avec Lola, Erin et Lilou qui nous font un petit tour de leur découverte du moment. On commence avec Lola qui, après avoir vu le film The Substance, souhaitait nous en parler. On l'écoute.
Bonjour à tous, moi c'est Lola et je suis ravie de prendre la suite de Toine pour poursuivre cette chronique cinéma avec vous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans The Substance. En plus de vous offrir une critique traditionnelle, je souhaite partager une réflexion sur les thèmes profonds que ce film aborde et bien sûr vous donner envie de le découvrir. Sorti en 2024 et réalisé par Coralie Ferja, The Substance est un drame qui a marqué les esprits lors de sa présentation au Festival de Cannes, où il a remporté le prix du scénario. L'actrice principale a d'ailleurs également remporté le Golden Globes de la meilleure actrice pour le rôle qu'elle y interprète.
Et quelles sont les questions soulevées par le film ?
Tout du long, le film va graduellement souligner la pression exercée sur les femmes pour maintenir une apparence jeune et attrayante, souvent au détriment de leur identité et de leur bien-être mental. Cela soulève une problématique importante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour correspondre aux idéaux de beauté et à quel prix ? Le film suit Elizabeth Sparkle, interprétée par Demi Moore, une ancienne star du cinéma devenue présentatrice d'une émission télévisée. À l'aube de ses 50 ans, Elizabeth est licenciée par son producteur, avide de la remplacer par une figure plus jeune. Désespérée par cette décision et confrontée à la réalité de son vieillissement dans une industrie obsédée par l'apparence, elle découvre The Substance, un produit révolutionnaire permettant de générer une version plus jeune, plus belle et plus parfaite de soi-même. Curieuse de la promesse de retrouver sa gloire passée, Elizabeth décide d'essayer cette substance, mais les résultats dépassent rapidement ses attentes. Progressivement, le film illustre comment Elizabeth s'efface, laissant plus en plus place à son double jeune, Sue, interprété par Margaret Qualley. L'acclimatation entre les deux entités, loin d'être harmonieuse, se transforme en une lutte permanente pour le contrôle de leur existence partagée. Sue, incarnation de la nouveauté et de la beauté, commence à supplanter Elizabeth, la reléguant à l'arrière-plan de sa propre vie, illustrant la guerre intérieure que mène Elizabeth contre le regard extérieur de la société et sa propre peur du vieillissement.
Donc ça n'est pas qu'un film d'horreur.
On comprend donc que The Substance n'est pas qu'un film d'horreur. C'est une critique ouverte des standards de beauté contemporains et de l'obsession de la jeunesse éternelle. En explorant les conséquences extrêmes de la quête de perfection physique, le film nous pousse à réfléchir sur notre propre perception de l'âge et de la beauté et nous oblige à une remise en question. Voilà, j'espère que cela vous aura convaincu de donner sa chance à ce film et à très vite pour une nouvelle exploration cinématographique.
Merci beaucoup Lola. La parole est maintenant à Erin pour la littérature.
Bonjour, moi c'est Erin. J'ai choisi de vous parler d'un livre poignant qui met en lumière la résilience de l'esprit humain face à l'horreur absolue. Il s'agit de La sage-femme d'Auschwitz, écrit par Anna Stuart. Ce roman, inspiré de faits réels, nous plonge au cœur des camps de concentration nazis à travers les yeux de deux héroïnes, Eva et Myriam, dont les destins s'entrelacent dans des circonstances inimaginables. Pour commencer, je vous résume l'intrigue en quelques mots. Eva, une sage-femme talentueuse, est déportée à Auschwitz après avoir été dénoncée pour avoir aidé des juifs à échapper aux nazis. Arrivée au camp, elle est confrontée à une réalité inhumaine où la mort est omniprésente. Mais son savoir-faire médical attire l'attention de la sinistre médecin-chef, le docteur Mengele, qui lui confie une tâche, superviser les naissances au camp. Myriam, de son côté, est une jeune femme déterminée à survivre malgré la perte de sa famille et les privations. Sa rencontre avec Eva devient une lueur d'espoir dans ce monde brutal, et leur lien illustre la force de la solidarité féminine. Ensemble, elles affrontent la cruauté quotidienne tout en cherchant à préserver leur humanité.
Oui, Erin, il s'agit donc d'une fiction historique au réalisme bouleversant, non ?
En effet, Anna Stuart offre une plongée réaliste dans les conditions de vie abominables des camps. Les descriptions, bien que jamais gratuites, sont d'une précision telle qu'elles immergent le lecteur dans l'univers oppressant d'Auschwitz. L'auteur ne cherche pas à édulcorer les faits, mais à rendre hommage aux femmes qui ont trouvé la force de lutter pour survivre et protéger les plus vulnérables. L'héroïne Eva incarne une forme d'espoir paradoxal. Même dans l'enfer des camps, elle utilise ses compétences pour défendre la vie, aussi fragile soit-elle. Ce contraste entre l'instinct de vie et la mécanique de mort instaurée par le régime nazi est au cœur du roman.
Ainsi, l'autrice propose une ode à la résilience féminine.
L'un des aspects les plus marquants de la sage-femme d'Auschwitz est la mise en avant des femmes comme piliers de résistance. Qu'il s'agisse d'Eva avec son savoir-faire, de Myriam avec sa volonté de faire, et des nombreuses prisonnières anonymes qui se soutiennent mutuellement, ce roman est un vibrant hommage à leur courage.
Alors, pourquoi lire La sage-femme d'Auschwitz ?
La plume d'Anna Stuart est fluide, rendant la lecture à la fois captivante et déchirante. Pour ceux qui souhaitent comprendre la complexité des émotions humaines face à la barbarie, tout en découvrant un pan d'histoire à travers une perspective féminine, La sage-femme d'Auschwitz est une lecture incontournable et essentielle, qui continue de résonner bien après avoir tourné la dernière page.
Merci à Erin. À présent, direction Porquerolles avec Lilou.
Bonjour à tous, moi c'est Lilou et je vais revenir sur la dernière sortie que nous avons effectuée avec le groupe de spécialité art plastique. En effet, en octobre dernier, nous sommes allés à Porquerolles avec notre professeure, Madame Germani. Et nous avons eu la chance de nous rendre à la Fondation Carmignac, ancienne maison d'architectes qui accueille désormais une collection permanente et des expositions. En octobre, l'exposition s'intitulait The Infinite Woman, un sujet dans l'air du temps.
Alors Lilou, qu'est-ce que c'est que cette Fondation Carmignac ?
En effet, pour commencer, quelques mots sur cette fondation nichée sur une île merveilleuse. La Fondation Carmignac est basée à Porquerolles, au large de la Seyne-sur-Mer, et a été fondée en 2000 par Édouard Carmignac. Ce dernier, riche homme d'affaires, a longtemps investi dans l'art. La Fondation offre aujourd'hui à ses œuvres un bel écrin. La villa a été construite dans le respect de son environnement et se fonde dans un jardin imaginé par le paysagiste Louis Bennec. La promenade y est jalonnée de rencontres avec des œuvres qui résonnent avec le lieu. Créées par des artistes tels que Raume Plenza, Ugo Rondinone et Ed Rucha.
Et quelle est l'exposition que vous avez visitée ?
Une des expositions phares de la Fondation en 2024 était The Infinite Woman, qui nous invitait à déambuler au milieu de femmes fortes, lascives, fatales, aimantes et tentatrices ou encore cyborgs. Ces femmes apparaissent ici dans toutes leurs indéfinissables complexités. Rassemblant le travail de plus de 60 artistes, l'exposition nous invitait à une réflexion sur les récits féminins, depuis les mythes originels jusqu'aux images les plus contemporaines et subversives. La visite à la Fondation Carmignac à Porquerolles m'a véritablement passionnée. L'installation m'a permis d'explorer des perspectives nouvelles sur l'image de la femme. Cette expérience m'a convaincue que la femme peut être un mélange entre art et complexité, interprétant le corps féminin comme porteur de significations multiples. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois pour découvrir de nouveaux artistes et des lieux d'exposition.
Merci à vous trois pour ce point culture. J'espère qu'il vous aura donné envie de partir à la découverte de cette magnifique fondation dédiée à l'art contemporain. Nous arrivons déjà à la fin de ce live. Merci à tous nos chroniqueurs et à l'équipe technique du live pour leur super travail. J'espère que cette émission vous a plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter tous les mois. Vos retours nous font très plaisir. Nous vous envoyons tout notre soutien en cette période particulièrement stressante pour les premières et les terminales. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochaine émission. Prenez soin de vous et à bientôt sur Radio Bossier.